âge et jusqu'à ma mort, je resterai fidèle à l'idée que les économistes peuvent influencer l'emploi. Voilà ce que déclarait le mathématicien et économiste Edmond Malinvaux. Il est l'auteur du nouveau livre qui rejoint notre bibliothèque, Théorie macroéconomique, publié en 1981. Et c'est Henri Sterdignac qui va nous en parler. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes économiste, directeur du département économie de la mondialisation de l'OFCE et professeur associé à l'université Paris-Dauphine. Alors d'abord, pouvez-vous nous présenter Edmond Malinvaux, qui est mort il y a seulement 3 ans, à l'âge de 91 ans?
Eh bien, Edmond Malinvaux est né en 1923. Ensuite, il a fait des études, d'abord l'école polytechnique, puis l'ENSAE, l'école nationale supérieure de l'administration économique. Il est parti faire des recherches universitaires aux États-Unis. Il est revenu en France. Pendant de longues années, il a dirigé l'ENSAE. Donc, il a formé une grande partie des économistes français. Et puis ensuite, il est devenu directeur de la prévision, directeur de l'INSEE. Et puis, il a terminé sa carrière, si on peut dire, comme professeur au Collège de France.
Sa fibre sociale, née dès son plus jeune âge, il est alors frappé par les graves difficultés que traversent les industries de la porcelaine et de la chaussure de Limoges, sa ville natale après la crise des années 30. C'est un économiste qui prend en compte cette question sociale.
Disons que après la guerre, l'ensemble des économistes étaient persuadés qu'ils avaient un rôle à jouer pour aider les pouvoirs publics à maintenir une croissance élevée et le plein emploi. Et donc Edmond Malinvaux a participé à cette idée que effectivement, en donnant des bons conseils au gouvernement, eh ben on va être capable de maintenir le plein emploi.
Et il est l'inspirateur de l'école du déséquilibre qui va naître en France dans les années 70. En quoi consiste cette école, Henri Sterdignac?
Eh bien, vous savez que, d'une part, Malinvaux est le continuateur, si on peut dire, de l'école keynésienne, c'est-à-dire l'idée que, spontanément, on n'a pas plein emploi, qu'il y a des fluctuations économiques qui sont dues aux chocs, qui sont dues aux variations d'anticipation des entrepreneurs. Donc, on a besoin d'une politique économique stabilisatrice et la flexibilité des prix et des salaires ne suffit pas à maintenir le plein emploi. Et à partir de cette idée que la flexibilité des prix et des salaires ne suffit pas à maintenir le plein emploi, et même que dans certains cas, elle peut être dangereuse, puisque si en période de chômage, ça fait pression sur les salaires baissent et du coup la consommation baisse et ça fait encore chuter la production. L'idée, c'est de faire une théorie de l'économie lorsque les prix et les salaires sont rigides. Et donc, c'est ce que Malinvaux, avec d'autres, a fait. C'est ce qu'on a appelé la théorie du déséquilibre. Et dans la théorie du déséquilibre, Malinvaux a montré qu'il pouvait y avoir plusieurs situations économiques, macroéconomiques. La situation la plus fréquente, c'est celle du chômage keynésien. Les entreprises ne produisent pas assez parce que elles n'ont pas de débouchés et du coup, ça crée du chômage. Il peut y avoir d'autres situations comme le chômage classique où les entreprises ne produisent pas parce que elles n'ont pas le stock de capital nécessaire ou des situations comme celle qu'on a connue entre 68 et 73 en France, il y a très longtemps, où on est en suremploi. Et donc, la théorie du déséquilibre, elle fait une typologie des situations macroéconomiques.
Alors justement, venons-en à ce livre, Théorie macroéconomique au singulier, publié en 1981. Un ouvrage magistral, selon le démographe Alfred Sauvy. Pourquoi avoir choisi cet essai en 2 tomes, Henri Sterdignac, plutôt que La croissance française ou les essais sur la théorie du chômage qui sont plus connus?
Parce que cet ouvrage est un manuel, si on peut dire, dans lequel Malinvaux explique l'équilibre macroéconomique, c'est-à-dire pourquoi effectivement on n'atteint pas le plein emploi en permanence et pourquoi une politique économique est en permanence nécessaire et quel est le type de politique économique qu'il faut faire. Donc, c'est un ouvrage qui, en fait, a circulé sous forme miméo à partir des années 70.
Sous forme miméo?
Sous forme de manuel, que ce soit à l'ENSAE, à l'École des Mines ou au Centre d'études des programmes économiques, qui a été publié en 1981 et qui, de ce fait, peut être considéré comme un ouvrage typique de la pensée macroéconomique keynésienne.
Dans le tome 1, Edmond Malinvaux rejette l'idée selon laquelle l'inflation irait de pair avec la croissance.
Eh bien justement, on peut osciller entre plusieurs types de politiques économiques suivant la conjoncture. Dans certaines situations, le grand problème, c'est le manque de demande. Et donc, il faut baisser les taux d'intérêt tant que c'est possible. Il faut faire de la politique budgétaire expansionniste parce que, effectivement, c'est nécessaire pour augmenter la croissance. Il n'y a pas d'impact défavorable puisque, justement, il y a la main-d'œuvre disponible pour travailler. Et dans d'autres situations économiques, le problème, c'est que les entreprises n'ont pas assez de capital. Et donc, dans ce cas-là, il faut au contraire augmenter le profit des entreprises pour les inciter à constituer le capital nécessaire. Et dans ces conditions, il ne faut pas naturellement relancer la demande de consommation qui nuirait à l'investissement. Et puis si on est en situation de plein emploi, naturellement, la question ne se pose pas, il ne faut pas relancer. Et l'intérêt de la problématique de Malinvaux, c'est de bien distinguer les situations et de bien dire, ben voilà, ce n'est pas la même politique qu'il faut faire dans chacune de ces conjonctures. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on entend des fois des discours saugrenus, du genre, attention, les déficits publics, ça va relancer l'inflation. Mais si les déficits publics sont nécessaires pour soutenir l'activité en période de sous-emploi, naturellement, ça ne va pas relancer l'inflation.
Le chômage classique et le chômage keynésien peuvent coexister. Quelle politique économique est-ce qu'on peut mettre en œuvre dans ce cas?
C'est un des problèmes de l'approche, disant... qui a été ensuite complété, disant bah il peut y avoir des secteurs en situation classique, il peut y avoir des situations, des secteurs en chômage keynésien. Dans ce cas-là, on a un arbitrage. Lorsqu'on va relancer, on risque de relancer l'inflation dans certains secteurs, mais c'est nécessaire pour d'autres. Et donc, c'est toute la subtilité de la politique économique et le rôle des conseillers du prince de dire, ben voilà, compte tenu de la situation, ce qu'il faut ou ce qu'il faut pas faire.
Plus largement, en quoi la théorie du chômage de Malinvaux apporte aujourd'hui des éclairages sur les réponses à apporter au chômage qui touche 9% des actifs en France, ce qui correspond à environ 2,73 millions de personnes. Henri Sterdignac.
Je peux vous faire deux réponses contrastées. La première, c'est que, bien sûr, on constate aujourd'hui qu'on est en situation de chômage keynésien. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent un emploi et qui n'en trouvent pas. Et donc, il y a beaucoup d'entreprises qui sont contraintes par le manque de demande. Et donc, la grande contrainte, c'est la contrainte de déficience de la demande. Maintenant, on peut se poser la question, quels sont les points qui sont plus ou moins périmés dans l'ouvrage de Malinvaux, dans l'analyse de Malinvaux. Et à ce moment-là, on est amené à dire... l'ouvrage date des années 70-80 et Malinvaux n'avait pas vu les conséquences de la financiarisation qui font que les entreprises veulent de plus en plus de profits alors qu'elles ont besoin en réalité, elles n'ont pas besoin d'investir plus. Et donc automatiquement, ça crée un déséquilibre parce que les profits excessifs que demandent les entreprises, ben, ça pèse sur les salaires et donc sur la consommation, il y a un déséquilibre structurel, on peut dire, dans nos économies, qui fait que il y a un manque structurel de demande. Et on voit que dans tous les grands pays actuellement, on est obligé de pratiquer des taux d'intérêt très bas et d'avoir des déficits publics importants. C'est le cas aux États-Unis, c'est le cas en Grande-Bretagne. On a des taux d'intérêt qui sont très bas par rapport au taux de croissance et on a des déficits publics élevés parce que disons, le capital l'emportait par rapport au travail. Et l'autre grand défaut que Malinvaux n'avait pas vu, c'est les conséquences de la globalisation, de la mondialisation commerciale, qui fait que maintenant, on a besoin de stratégies coordonnées à l'échelle mondiale, qu'on a des pays comme l'Allemagne qui basent leur croissance non pas sur la demande intérieure, mais sur la demande extérieure et qui, du coup, font une pression insupportable sur les autres. Et puis, Malinvaux sous-estimait sans doute l'instabilité induite par le développement de la finance. Au temps de Malinvaux... Les grands chocs ont été des chocs réels, les guerres, guerre de Corée, guerre du Vietnam, la hausse du prix du pétrole. Et puis depuis, les grands chocs, c'est des chocs financiers. On est dans un monde où, en permanence, on a des bulles financières. Et ces bulles financières, lorsqu'elles éclatent, ça se traduit par des chocs sur la demande.
Vous aussi, Henri Stadignac, vous restez fidèle à l'idée que les économistes peuvent influencer l'emploi, pour reprendre les mots d'Edmond Malinvaux.
Edmond Malinvaux, toute sa vie, a été ce qu'on appelle un haut fonctionnaire. Et le haut fonctionnaire, il pense que l'État est au service de la collectivité. Et donc, en conseillant le prince va forcément faire la bonne politique. Aujourd'hui, on est peut-être moins naïf. On sait que l'État, c'est aussi au service des grandes puissances, de l'argent, de l'industrie. Et que l'État, le gouvernement, les hauts fonctionnaires font pas toujours la politique qui serait nécessaire au niveau du bien commun, et que souvent ils font plutôt une politique au service des classes dominantes. Donc ce que nous dit Malinvaux, c'est plutôt ce qui devrait être plutôt que ce qui est effectivement réalisé dans la pratique actuelle de la politique économique.
Cet ouvrage d'Edmond Malinvaux, c'est un manuel d'enseignement de la macroéconomie que vous recommanderiez à des étudiants, et si oui, pourquoi? Pourquoi faut-il lire aujourd'hui Théorie macroéconomique d'Edmond Malinvaux?
Il faut lire aujourd'hui cet ouvrage. D'abord, Edmond Malinvaux est un modèle, si on peut dire, du point de vue de la méthode. C'est-à-dire, la méthode, ça consiste à dire, il faut partir des faits, il faut partir des données. Il faut essayer de les expliquer de manière la plus simple possible. Malinvaux se méfiait toujours des théories trop simplistes en même temps. Il était très attaché aux données. Donc Malinvaux, tout au long de sa carrière, a toujours refusé d'être un chercheur pur. Il y a toujours l'idée que pour être un bon économiste, il faut mettre les mains dans le cambouis, c'est-à-dire pour un macroéconomiste, suivre effectivement la conjoncture économique, donner des avis au prince et non pas avoir théories en chambre comme certains économistes d'inspiration néoclassique qui ont des modèles dans lesquels ils font l'hypothèse que les agents sont parfaitement rationnels, qu'ils sont capables d'anticiper le futur, que les prix et les salaires sont parfaitement flexibles, et qu'on est toujours donc, si on peut dire, à l'équilibre le plus satisfaisant qui soit, tandis que Malinvaux, lui, connaît les déterminants des fluctuations économiques, lui, il est soucieux de faire une théorie qui essaye d'expliquer effectivement les fluctuations économiques telles qu'elles sont observées.
Merci beaucoup, Henri Stadignac, de nous avoir fait découvrir cet ouvrage d'Edmond Malinvaux. Je rappelle le titre de l'ouvrage collectif des économistes atterrés que vous avez coordonné, Macron, un mauvais tournant, paru au Lien qui libère. Un grand merci.